Alors, on peut commencer maintenant, Cameron. Merci beaucoup d'avoir Hugo Pelletta et Anas Khazib ici avec nous ce soir. Nous sommes très heureux pour ça. But to go into English quickly. So tonight we've got Hugo Pelletta and Anas Khazib joining us talking about the radical left in France. I think in a way, Anas Khazib, in our ranks at least, doesn't need an intervention, an introduction, sorry. Anas was, a leader of the winter strikes at the end of, 2019 and early 2020. You know, he's a rank-and-file activist, a revolutionary committed to the overthrow of capitalism, and we're very pleased to have him here tonight with us. And Hugo Pelletta is, a long-time revolutionary activist, and he's currently the editor of Contretemps, which is a journal that the, Daniel Ben Saïd, one of the leaders of 68, set up. And he's also the author of, The Possibility of Fascism, a book that really sets out the terrain of trying to understand the new neo-fascism and how to fight it, as well as other, books and works on strategy and politics and so on. So without further ado, I think that's good.
So I'm going to translate for Anas. And so, allez-y, Anas, c'est à toi maintenant de parler. On écoute.
C'est bon, tout le monde m'entend?
Tout le monde t'entend, je crois. Everyone can hear.
OK. Bonjour à tous les camarades. Tout d'abord, remercier Darren Rosso et l'ensemble des organisateurs de cette conférence Marxisme 2021.
First of all, good night, everyone, and thanks to Darren and all the organizers of Marxism for having me tonight.
Et je pense qu'en tant que marxiste et internationaliste, en fait, ces moments et ces conférences importantes comme la vôtre nous permettent en fait de pouvoir discuter, débattre et tirer les conclusions, non pas à l'échelle uniquement locale et nationale, mais à l'échelle internationale.
Conferences like this allow us as revolutionaries to discuss topics that are not just local but international as well.
Voilà. Moi, je suis donc militant révolutionnaire au sein du NPA, dans une tendance qui s'appelle le courant communiste révolutionnaire ou qui est connu également par un média en ligne qui s'appelle Révolution Permanente. Et je suis également dirigeant syndical sur le secteur de Gare du Nord, qui est la première gare d'Europe au niveau de la SNCF.
So I'm a leading member of the MPA in the Revolutionary Communist Current, and I'm also a union activist and union leader in the train...
Gare du Nord. Gare du Nord.
Yeah, it's a train station in Paris, Gare du Nord. And a strike leader in the 2019 strikes.
Voilà. Pour essayer de parler un peu de la situation française aujourd'hui et au regard de ce qui est en train de se passer au niveau international avec la crise et la crise du coronavirus et la situation économique, je voulais essayer déjà de donner quelques éléments, on va dire, de contexte avant le démarrage de cette crise qu'a démarré l'hiver dernier.
Okay, so I wanted to give a little bit of political context about what was happening in France before the coronavirus crisis happened, and basically give some political context about what was happening in the struggle before that changed everything.
C'est important pour moi de commencer par cela parce que la situation aujourd'hui avec cette crise sanitaire, on va dire, elle peut paraître même un peu antagoniste avec ce qu'on a pu connaître notamment dans les 5 dernières années qui viennent de s'écouler, et notamment les camarades ont par exemple fait référence à la lutte qu'il y a eu contre la réforme des retraites.
So in the previous 5 years that were leading up to the coronavirus crisis, people were making comparisons to some of the struggles that were happening prior to that with the pension reforms.
La réalité, c'est qu'en France, depuis maintenant 2016, c'est-à-dire depuis 5 ans, on a connu et accumulé des luttes assez importantes et une variété, si je peux dire, de cette manière-là, de lutte assez importante dans tout type de secteur. On a eu tout d'abord les mobilisations contre la loi El Khomri, dite loi travail, en 2016. Juste pour savoir, est-ce que le rythme est bon sur la traduction ou si tu veux, je peux avancer un peu plus.
Ça va.
Ça va pour l'instant, ok, d'accord. Je te laisse traduire alors.
There's been a lot of struggles in a whole lot of different industries leading up to the pension reform strikes that happened in 2019. Notably in 2016, there was a huge strike wave around work reform laws called the El Khomri laws that people might be familiar with. So there's a backdrop to it as well.
Donc, je disais, en 2016, il y a eu la réforme de la loi travail. Il y a eu en 2018 la réforme du ferroviaire qui a duré plus de 3 mois dans le chemin de fer, 3 mois de grève quasi reconductible. En même temps, il y avait plus d'une trentaine d'universités qui étaient bloquées. Et après 2018, on est rentré dans un des mouvements les plus subversifs des 50 dernières années en France avec qui s'est appelé les Gilets jaunes.
OK. So there was a huge, huge wave of strikes that were happening in 2018, huge rail strikes that were happening, and that led into one of the most subversive and one of the most militant movements that's happened in France in the last 50 years, the Yellow Vest movements.
Voilà, et donc, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, on a connu aussi une...
Attends, le son, ça ne marche pas. Ton microphone, je pense pas que ça marche.
C'est bon, là?
Non, je t'entends pas.
Tu m'entends bien? Le micro est bon, pourtant il est
j'entends rien
connecté.
Là. Désolé. Tu m'entends?
C'est bon?
C'est bon? Continue.
Ok. Super. Donc, je disais, après le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu 60 jours de grève contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et puis, s'en est suivi durant la première phase du coronavirus avec des mouvements d'ampleur qui ont traversé. Plusieurs pays de la planète après la mort de George Floyd et qui ici en France, derrière un comité qui s'appelle le comité Adama Traoré, a eu beaucoup d'écho avec parfois des rassemblements qui ont atteint plus de 150 000 personnes et notamment une génération nouvelle en fait issue des quartiers populaires racisés qui était présente en fait lors de ces événements après la mort de George Floyd.
So there was huge strike waves that were happening around the Yellow Vest movement before and after. And there was also massive demonstrations that happened around the death of George Floyd, not only in France, but around the world. And in France, sometimes with 150,000 plus people demonstrating, with a lot of people from the suburbs around Paris.
Aujourd'hui, pour basculer sur la situation du coronavirus en France depuis un an, c'est on va dire la cerise sur le gâteau de l'échec d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est un an d'une gestion de crise, moi je ne dis pas catastrophique, mais sinon criminelle. Je considère qu'ils ont du sang sur les mains avec déjà plus de 100 000 morts ici du Covid-19 en France.
The handling of the coronavirus crisis, it's just the cherry on top of the Macron presidency. There's been tens of thousands of deaths. It's been handled catastrophically and criminally.
Voilà. Et moi, notamment, le Covid-19, je l'ai vu de manière proche, on va dire, parce que j'ai, dès le démarrage de cette crise ici en France, j'ai mon beau-père qui a passé un mois de réanimation à l'hôpital et qui est décédé du Covid-19. Et j'ai malheureusement vu l'envers du décor aussi de cette gestion catastrophique ici.
So I've seen firsthand the experience, like the COVID crisis. My stepfather spent a month in ICU and then died of COVID. So I've seen firsthand what's happened with the crisis.
Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'un pays dans lequel Emmanuel Macron se définissait lors de son élection en 2017 comme le Jupiter. C'est comme ça que se définissait lui et son gouvernement, et on voyait la presse au niveau international qui saluait en fait l'avènement de ce nouveau président jeune, charismatique, dont la colonne vertébrale était le néolibéralisme en fait et qui allait casser la baraque.
Yeah, so the international press kind of hailed this new leader when Macron came into power as this rising star, and that he was going to, you know, bring in neoliberal reforms. He was like a champion of neoliberalism, basically.
Ce qu'on a pu voir notamment, c'est que Emmanuel Macron, en fait, son quinquennat, il est arrivé très rapidement, en fait, dans une merde noire, si je puis dire, dans le sens où il y a eu un réveil de la lutte de classe de manière importante, et notamment durant cette période de crise sanitaire, on a vu à quel point l'impact du capitalisme, l'impact du néolibéralisme, en fait, dans la
société, plus là, qui fait que... Ça marche plus. Ouais.
Normalement, j'ai touché à rien. Tu m'entends?
Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois pour faire le micro?
Non. C'est bon là?
Non.
Non.
Encore?
Non.
Recommence.
Oui, tu m'entends?
Recommence.
Tu m'entends?
Ouais, on m'entend ça maintenant.
Je disais que la situation du Covid, il ne faut pas la voir uniquement de manière sanitaire, mais il faut la voir de manière profondément politique, en fait. Parce que l'ensemble des morts, l'ensemble des différentes situations qu'on a pu connaître entre le manque de vaccins, entre les confinements, entre les types de stratégies, en fait, ne sont que le résultat, en réalité, d'une dégénérescence, si je peux dire de cette manière-là, d'un système capitaliste qui a montré toutes ses limites et qui a montré à quel point il est à bout de souffle aujourd'hui.
So the coronavirus crisis is more than just a health crisis. It's revealed the extent to which the capitalist system has kind of reached its limits. It's just been exhausted of its potential and it's exposed all of its failures in its handling of the crisis.
Et ce qu'on peut voir, c'est que durant cette année de pandémie, il y a une phrase moi qui résonne, c'est celle d'un éditorialiste bourgeois ici dans une radio importante qui s'appelle Dominique Seux, mais c'est pas très important, vous allez pas connaître en Australie, mais Dominique Seux, il disait, c'est durant la crise du coronavirus qu'on a vu à quel point celles et ceux le métier nous paraît si insignifiant, qui ont joué le rôle le plus important en fait durant la crise. C'est-à-dire, dans notre langage en tant que marxiste, en tant que militant de la classe ouvrière, c'est de montrer à quel point le prolétariat à l'échelle internationale a été le béton armé en fait pour tenir l'ensemble de l'humanité à flot.
So there's a line, a quote from a bourgeois journalist who basically said that the coronavirus crisis has displayed to everyone the extent to which, you know, these so-called unseen workers are so necessary to the running of capitalism and how underappreciated but how necessary they are for the functioning of society.
Il y avait une deuxième phrase qui fait écho. Ça, c'était une biologiste espagnole à qui on a posé la question. C'était autour du mois de mai. Il lui demandait, en fait, des journalistes espagnols, où vous en êtes sur la recherche et sur le vaccin. Et cette biologiste espagnole, elle leur a répondu une phrase qui, pour moi, résume ce que veut dire la lutte de classe. Elle dit, vous donnez 1 million d'euros à Cristiano Ronaldo, on gagne 1 800 euros par mois. Et elle dit, à Cristiano Ronaldo de vous trouver un vaccin rapidement maintenant.
Yeah. There was a Spanish biologist who famously said in the media, you give Cristiano Ronaldo millions of dollars, but we get 1,800 euros a month, so why don't you ask him to come up with a vaccine?
Et donc, ça montre à quel point, en fait, que la gestion de cette bourgeoisie, en fait, à l'échelle internationale, et notamment en France, qui est un des pays impérialistes les plus importants, qui est un des pays également encore aujourd'hui, dont les armées sont par exemple au Mali et dans d'autres pays, en fait, que un pays comme la France, dont les ressources financières sont importantes, de voir qu'il a fallu au président de la République, notamment durant les deux premiers mois de la crise, d'expliquer que le masque chirurgical ne servait à rien, en fait. On nous expliquait que ça ne servait à rien, le masque, que le masque ne protégeait pas du Covid-19, simplement parce que la France, en fait, dans sa politique de casse sanitaire, en fait, n'avaient pas de masque. C'est ça qui est assez incroyable, de se dire que dans un pays comme la France, la cinquième puissance économique mondiale, il n'était même pas possible d'avoir un morceau de papier avec des élastiques autour des oreilles.
So basically, France, which is a huge imperialist power, one of the most strongest imperialist powers in the world, that has occupations of countries around the world currently, like Mali, one of the most powerful militaries. We have the president getting up and basically saying that we don't have enough resources to create masks for everyone, and so making up a lie that they basically don't work.
Et je ne vais pas rentrer sur tous les aspects, tous les détails de cette crise sanitaire, mais simplement pour vous visualiser en fait la situation en France, c'est-à-dire c'est des décennies en fait de casse du service public. Ce sont aujourd'hui des milliers de personnes qui sont en réanimation, dont les lits déjà sont complets. Le nombre de morts continue à s'accumuler, le nombre de Covid positifs en fait est en train encore de s'accumuler, et en même temps le monde de la classe ouvrière, et j'ai envie de dire même la population au sens global ici en France, n'a aucune perspective en fait. Depuis plusieurs semaines, il faut savoir maintenant, depuis le mois de novembre, nous avons un couvre-feu jusqu'à 18h. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun bar, plus aucun restaurant, plus aucun cinéma depuis le mois de novembre. En fait, il n'y a aucune activité ici en France, sinon le travail.
We're in a situation now in France where it's just getting worse again. All of the ICU beds are full. Everything's getting full. People are dying. There's countless people in ICU. And we're in a situation where since November, basically, we've just been in lockdown and there's no end in sight and we don't know when it's going to end. And basically, the only thing that's allowed is going to work.
Et pour aller sur la deuxième partie de mon intervention, et ce qui nous intéresse en tant que marxiste, en tant que matérialiste, c'est également de voir quelle est la situation au niveau de notre classe.
And so we want to see as Marxists, what's the situation in terms of that class? Where is that class at?
J'ai voulu faire l'introduction sur les éléments de contexte des cinq dernières années pour comprendre que la France est un bastion de la lutte de classe à l'échelle internationale, qu'on a pu voir à quel point des mouvements comme celui des Gilets jaunes ont pu permettre à l'international, en Algérie, au Chili, en Équateur et ailleurs, en fait, de pouvoir aussi s'inspirer de ce qui s'est passé ici en France, à l'image de ce qu'a provoqué la mort de George Floyd aux États-Unis, dans l'épicentre du capitalisme, et qui a eu des retentissements ici même en France et partout dans le monde. Et c'est important aujourd'hui, en tant que marxiste et en tant qu'internationaliste, qu'on comprenne comment la lutte de classe, parfois dans un pays isolé, peut avoir des retentissements en fait à l'échelle internationale et débloquer des situations ailleurs.
I want to talk about how France has always been a leader of, well, recently been a leader of class struggle, and that, you know, these struggles have been taken up in other parts of the world, notably Algeria, but also that there's the effect of other countries' struggles having an effect in France. So the murder of George Floyd and the Black Lives Matter movement having a huge effect on politics in France as well, and that these international events reverberate around the world, and that we're not isolated from each other.
Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on est en train de voir, et c'est pour ça que notre lecture politique et notre manière de militer est importante, dans le sens où on peut se dire il y a la pire pandémie en fait de l'histoire de l'humanité. Il y a une crise économique qui est catastrophique. Il faut savoir, par exemple, en France, il y a déjà plus de 800 ce qu'on appelle des plans sociaux, c'est-à-dire des fermetures d'usines, d'entreprises ou des restructurations, des licenciements importants.
So there's a massive crisis in French society in terms of the worst pandemic in living memory, but also the economic crisis which is ongoing. And it's, you know, it can't be understated, the sense of economic crisis that's felt in France, with literally hundreds of factories being closed down every year and thousands of workers being laid off.
Et donc je disais qu'on pourrait se dire toutes les raisons en fait alors qu'on venait de lutter contre la réforme des retraites ici en France. Derrière, s'en est suivi de mobilisations importantes autour de après la mort de George Floyd, que toutes les raisons en fait sont présentes pour pouvoir lancer une lutte de masse, une grève générale, etc. Le problème, c'est qu'on voit le rôle néfaste ici en France de ce que nous on qualifie de bureaucratie syndicale, de grandes directions, de grandes centrales syndicales qui aujourd'hui ne font rien du tout en fait, accompagnent les patrons et le gouvernement en fait dans cette crise.
We have a situation where we have all of the ingredients for mass struggle in France. We've got the economic crisis, we've got the coronavirus, we've had strikes for years, the murder of George Floyd. There's the real sentiment and the potential for mass movement, but what we've seen is the union bureaucracy over and over again just stifle that potential and essentially do nothing and feed it into, you know, what the bosses and the government want, which is passivity.
Et c'est ce qui est important en fait à comprendre, non pas pour moi je dis notamment à des camarades qui ne sont pas militants révolutionnaires, qui sont des camarades ouvriers et autres, qui parfois ont tendance en fait à se démoraliser, à pas comprendre pourquoi les choses, on va dire de manière automatique, pourquoi les choses ne se réveillent pas, pourquoi les gens ne bougent pas en fait, comme si la question n'était que celle de morale et de détermination.
You know, there's a real kind of searching of like why aren't things happening? Comrades kind of wondering why, when all the situation is there, when all the ingredients are there, why isn't anything happening? As though it's a moral question, it's a moral failure of the people who are involved in struggle.
Ma réponse, elle est toujours la même. Elle est de montrer que la question n'est pas morale, mais c'est politique, c'est stratégique, c'est programmatique en fait ce qui se passe.
The answer is not moral. It's a question of programmatic and political and strategic questions rather than moral questions.
C'est de comprendre quels sont nos outils en fait pour pouvoir lutter et affronter la bourgeoisie qui, elle, a ses médias, ses politiques, ses avocats, ses juges, ses journalistes. Comment en fait on lutte face à une classe bourgeoise qui est si organisée?
The question is, how do we fight back against a bourgeoisie, a capitalist class that is so well organized with its judges, its police, its media, and everything like that? That's the question. How do we organize against that, the class that is so well organized?
Et c'est dans ce sens-là que durant nous cette crise du Covid, avec nos avec beaucoup d'humilité, avec nos quelques implantations dans le mouvement ouvrier. Notamment à travers un camarade qui s'appelle Adrien, qui est un dirigeant d'une centrale syndicale importante qui est la CGT, et dans une des raffineries de pétrole les plus importantes qui est celle de Grand Puy du groupe Total.
Alors, ça s'appelle comment ? Pardon ?
L'entreprise, c'est Total.
Yeah.
C'est un géant mondial du pétrole.
Refinery company in France. There's a comrade that's been working as a union leader in the CGT in one of these oil refineries in France. And
ils ont mené une lutte de plus de 45 jours contre justement la fermeture de cette raffinerie qui était couverte par ce que nous on qualifie de greenwashing, c'est-à-dire sous prétexte de pollution, d'écologie. Total a utilisé la question climatique pour pouvoir supprimer des emplois et transformer ce site en ce qu'ils appellent du bioplastique, alors qu'en même temps, et c'est ce qu'il faut comprendre, ils font passer un pipeline de plus de 1500 km en Afrique et notamment jusqu'en Ouganda.
So this company Total has used the cover of greenwashing basically to shut down this militant workplace. And, you know, basically say that they're going to shut down the refinery for the environment, but at the same time, they're building a massive oil pipeline to Uganda.
Est-ce que nous, on a pensé en tant que militants révolutionnaires, en fait, non pas uniquement de faire une grève on va dire, classique d'être devant l'usine et d'affirmer le maintien des emplois. Mais c'était de mettre cette question-là, de cette suppression d'usines au cœur, en fait, de la politique, au cœur de la lutte de classe, en fait, mais également au cœur des enjeux climatiques. Et notamment, imaginez, camarades, que dans cette lutte, raffinerie pétrolière, il y avait l'ensemble des groupes écologiques comme Greenpeace et d'autres groupes, en fait, qui ont milité derrière les ouvriers, en fait, pour que les ouvriers arrachent les moyens de production et décident de la transition écologique de cette raffinerie.
And so what the union there is, and the workers there have been able to do in 45 days being on strike is actually bring in green groups and environmental groups behind them and make the argument that in order to transition green, it should actually be the workers that get to take control of the refinery and decide what they want to do with it themselves.
Et notamment, toutes ces questions-là nous permettent, nous, de pouvoir... nous sommes trotskistes, et notamment la question du programme de transition et de comment voir ce programme de transition de Trotsky, de la 4e internationale, à la lueur aujourd'hui de ce qui est en train de se passer, c'est notamment d'essayer, durant toute cette période, de commencer notamment à parler de contrôle ouvrier, d'essayer de montrer que la question de la classe ouvrière aujourd'hui, à l'image de cet éditorialiste bourgeois qui disait que c'est grâce à ceux qu'on a banalisé, en fait, que l'humanité a tenu, c'est-à-dire la classe ouvrière, on dit aujourd'hui à la classe ouvrière maintenant d'arracher le pouvoir des mains de la bourgeoisie et de contrôler, en fait, les outils de production, parce qu'on a vu que le capitalisme aujourd'hui, à travers cette crise du coronavirus, n'est pas capable, en fait, de protéger l'humanité.
Okay, so it's up to us as workers and as Trotskyists to realize this transition program and to say that the capitalist class is not capable of doing anything, and it's up to us as workers to take control of the means of production to struggle and to take control of the means of production.
C'est en tout cas ce qui, pour nous, est central dans la période. C'est de dire qu'il y a la nécessité, en fait, de créer des emplois. Et là, il y a la nécessité, notamment, par exemple, vis-à-vis des lits dans les hôpitaux qui manquent, vis-à-vis des respirateurs artificiels qui manquent, vis-à-vis du vaccin. Nous, on dit que le vaccin, le brevet doit être libre d'accès. On devrait détourner des lignes de production dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans un certain nombre d'entreprises, en fait, pour fabriquer ces vaccins, fabriquer les seringues, fabriquer tout ce qui est nécessaire, en fait, non pas uniquement pour pouvoir vacciner la population d'un pays capitaliste et impérialiste, mais pour pouvoir vacciner l'ensemble de la population à l'échelle de la planète.
So we want to make the argument that it's actually up to us to take control of the economy and to turn production around in favor of actually making vaccines, making more hospital beds, supplying not just our own countries, but other countries with goods. We need to take control of the means of production in order to do those things. And those are the arguments that we should be making.
Parce que qui va se soucier de l'ensemble des exploités et des opprimés de la planète, sinon la classe ouvrière dans son ensemble, en fait? Il n'y a que nous qui pouvons détourner, en fait, et pouvoir fabriquer et faire les efforts nécessaires, en fait, pour, non pas du profit, non pas pour les poches des capitalistes, mais pour le bien de l'humanité, en fait. Nous, on considère que depuis le début, on aurait pu donner les moyens, en fait, aux ouvriers, aux travailleuses et aux travailleurs de pouvoir fabriquer les masques en nombre, fabriquer les lits en nombre, fabriquer les respirateurs artificiels, de pouvoir permettre toutes ces choses-là. Mais on a vu que la seule chose qui les anime, même dans la pire crise de l'humanité, c'est de pouvoir faire du profit, à l'image de Jeff Bezos, le patron de Amazon, dont la richesse a augmenté de plus de 80 milliards, pendant qu'il y a d'autres qui ne savent même pas quoi manger, qui faisaient la queue pour récupérer des colis alimentaires.
So I think it's become quite clear in this crisis that it's only the working class that is capable and has an interest in actually taking over production and producing things for the benefit of humanity, not just in our own countries, but everywhere. But instead, what capitalism has shown us is that instead of actually producing and supplying things for the benefit of humanity, it's made a whole lot of billionaires, such as Jeff Bezos, richer by $80 billion dollars. Meanwhile, people are going without anything, and people are starving, and people are dying because of the crisis. And that's one of the things that's really been highlighted by the crisis.
Et on pense que même s'il y a une forme de peur, de crainte vis-à-vis du Covid, vis-à-vis parfois de l'impuissance. Non, mais des fois, j'ai des camarades qui me disent ça, par exemple. Ils me disent, oui, mais Anas, nous, on aurait fait mieux s'il y avait un autre président de la République, par exemple. On ne pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Et ça, c'est malheureusement des réflexions que peut avoir parfois des membres de notre classe.
And so some members of the class, like some members of the working class, such as my workmates, have had the idea that, you know, we couldn't have done better than what we have now, basically. And unfortunately, that's some of the demoralizing ideas that some people have in the working class.
Et c'est pour ça que, pour nous, en tant que militants révolutionnaires, c'est d'avoir une lecture de la situation, non pas juste pour être des commentateurs. Et ça, j'invite vraiment les camarades à entendre cette chose-là. C'est ma vision, ce n'est pas d'être des militants révolutionnaires qui commentons la situation de notre pays, mais que nous soyons en fait des militants actifs.
We don't just want to be commentators in the political situation. We want to be active members of the working class, and we want to be militants in the working class, not just commentators.
Parce que souvent, on peut avoir cette tendance à voir tout de manière trop importante et de se dire que nous, on est petits et qu'on ne peut rien faire. Et nous, on voit que même lorsqu'on est un groupe militant, parfois petit, on peut lutter contre des géants comme Total, on peut lutter contre des géants comme la SNCF, qui est une entreprise qui fait des milliards en fait de profits chaque année. Aujourd'hui encore, il y a toute une nouvelle génération ouvrière dans mon secteur. Aujourd'hui, on est encore en grève. Ça va faire 75 jours de grève d'un secteur qui n'avait jamais fait grève de sa vie, en fait, dont certains jeunes sont racisés, victimes des violences policières et qui considéraient la question de la grève comme quelque chose qui ne faisait pas partie de leur langage et de leur vie et qui aujourd'hui ont compris la force, en fait, de la grève, qu'à travers la grève, ils étaient capables, eux, de mettre à genoux, en fait, leur patron.
And so what we've seen throughout this struggle is that even a small organization of militants can have an impact, such as with the Total refinery struggle, but also in my industry where I work, in the railways, where during the reform strikes, we were on strike for 75 days, which is the longest we've ever been on strike. And there's been a whole new layer of people that have come through who have never even taken industrial action before. And they're starting to make the links between racism and the class struggle, and that's something that's important and that we've had an impact on.
Et c'est par ces mots, en fait, que je vais essayer d'aller sur la conclusion. Mais c'est prendre, lorsqu'on fait un état des lieux, en fait, de quel doit être notre rôle, en fait, dans la prochaine période, en fait. Est-ce que notre rôle en tant que militant d'extrême gauche, militant révolutionnaire, c'est de rester pacifique face à tout ce qui est en train de se passer, ou essayer de saisir ce qui est en train de se passer, d'essayer d'enfoncer la brèche, d'essayer d'écarter cette brèche-là pour faire en sorte que les idées communistes, les idées de Marx puissent ressurgir en fait à la lueur de ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale.
And so the question is now, in this political climate, with everything that's happening, do we just sit back and be, you know, passive, or do we take advantage of the opportunities and the ruptures that are happening, and do we take that as an opportunity to spread our ideology, to spread left-wing ideology, communist ideology, and take that forward?
Et nous, on a vu depuis 5 ans que j'ai introduit sur les différents éléments, nous sommes profondément convaincus qu'il va y avoir un retour de la lutte de classe.
We're convinced
nous ne savons pas.
We're convinced that there's going to be a return of class struggle with what we've seen in the past 5 years. There's going to be a strong return of class struggle.
C'est pas quand est-ce que on fait. Nous sommes marxistes. Nous on fait pas de. On lit pas dans la boule de cristal.
We don't have a crystal ball. We're Marxists.
On est convaincu depuis la crise économique des subprimes en 2008 que nous sommes dans une phase en fait montante de la lutte de classe à l'échelle nationale en France, mais également à l'échelle internationale lorsqu'on a vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays et notamment dans le pays récent de Donald Trump où nous avons vu aussi ces révoltes à Minneapolis, à Philadelphie, à Chicago, à New York et qui aurait pu penser que dans un pays comme celui des États-Unis, on entendrait en fait des travailleurs américains, des Afro-Américains également, dénoncer le rôle de la police et dire que les syndicats doivent quitter la police. Ou bien je pense notamment à ces dockers aux États-Unis qui ont fait grève en soutien de la jeunesse racisée des États-Unis.
So we think that since the subprime crisis of 2007 and 2008, there's been a shift in the political climate in the around the world, in France, but also everywhere. There's been a rise in the class struggle. And who would have thought that in America under Donald Trump, there would have been mass demonstrations where Black Americans were basically leading the charge and calling for unions to disaffiliate the police from the trade union movement. You know, this is a shift in the political climate.
Et c'est ce que nous, on est en train de considérer, en fait, comme la tâche centrale, en fait, des militants révolutionnaires ici en France, c'est celle de la construction d'un parti révolutionnaire, en fait, des travailleurs, avec comme centre de gravité, comme colonne vertébrale, en fait, la question de la lutte de classe et de l'intervention, en fait, de la classe ouvrière pour pouvoir en terminer. Nous sommes, Lénine disait dans, je ne sais plus si c'était dans l'État et la Révolution, je crois que c'était dans l'État et la Révolution, Lénine disait notamment, le marxisme, ce n'est pas la lutte de classe. Il disait, le marxisme, c'est la dictature du prolétariat. Et en tant que marxiste, en tant que militant révolutionnaire, ce par quoi on doit être animé, c'est par l'idée communiste. Et on sait que cette idée communiste, elle ne pourra passer que par la dictature du prolétariat, c'est-à-dire ce que nous, on qualifie de démocratie des travailleurs.
So that is that Marxism is the dictatorship of the proletariat, and that's what we believe. We want to build an organization from the ground up that has class struggle and workers' struggle as its central pillar. And that's the kind of organization that we're fighting to build today.
Et notre temps, il. Tu avais tout traduit ou pas? Je crois pas que tu as tout traduit.
Ouais, je pense que j'ai un peu raté, mais bon.
Parce que tu n'as pas traduit la citation de Lénine.
Ah oui, Lénine. Ouais, j'avais dit.
C'est important.
Yeah, so.
Je te répète si tu n'avais pas pu remémorer. Je disais que Lénine, dans l'État et la Révolution, il disait le marxisme, ce n'est pas la lutte de classe, mais c'est la dictature du prolétariat.
Lenin in State and Revolution said that Marxism is not the class struggle, but it's the dictatorship of the proletariat.
Et en tant que marxiste, on doit être fasciné par cette question-là de dictature du prolétariat, c'est-à-dire comment on arrache le pouvoir à la bourgeoisie. Et on le sait que ça ne pourra pas se faire par les élections, pas se faire par des alliances avec la gauche réformiste, la gauche électorale, mais que ça va se faire uniquement à travers la lutte de classe, à travers la grève générale et à travers la conscience, en fait, des ouvriers, que c'est à eux, en réalité, de décider et de prendre leur avenir entre leurs mains. Mais cela ne peut pas se faire uniquement de manière morale et avec de la détermination.
And so basically the central tenet of what we're trying to achieve is that, you know, we have to have this as our guiding principle of the centrality of the class struggle. And that's going to take a lot of determination.
Et c'est pourquoi, si ce n'est pas avec le moral, en fait, qu'on peut, et par la spontanéité, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, malgré qu'il soit subversif, la spontanéité ne transforme pas les choses. C'est la stratégie et c'est la politique. Et c'est pour ça que nous, on considère qu'il est du rôle des révolutionnaires aujourd'hui de se battre, en fait, pour pouvoir s'organiser, se coordonner et doter notre classe. Le mieux, ce serait à l'échelle internationale, mais au moins à l'échelle d'un pays comme la France, de doter ici notre classe d'un outil, d'un parti en fait capable de pouvoir mettre à bas en fait le capitalisme, la bourgeoisie, les politiques en fait au regard et au travers de cette crise sanitaire, de cette épidémie du Covid-19 qui a montré toutes les limites du pouvoir et qui aujourd'hui, avec la question de la crise climatique, et je sais qu'elle est importante notamment pour les camarades en Australie, de montrer que ce sont, comme les travailleurs de Total, le rôle des ouvriers en fait et le rôle des militants écolos de pouvoir lutter en fait pour l'avenir de demain, pour l'avenir des générations futures.
And so what's been shown recently is that we can't rely on spontaneity, we can't rely on leaderless movements such as the Yellow Vests to take things forward. The working class needs an organization that is implanted and that has a strategy and that has a goal to overthrow capitalism and to use the power of the working class to achieve that goal, essentially, to overthrow capitalism and to bring that together with the ecological movement, the green, the environmental movement, and to take that forward as a class. Okay.
Merci, merci, camarade.
Hugo, t'es là? Hugo, tu peux commencer maintenant.
Okay, thanks. So I would like to thank the comrades who organized this session to give us the opportunity to speak about the social and political situation in France. In such a meeting, which is, as Anna said, is extremely important in this very difficult context. But by the way, I will give this presentation in English, but I think I go back to French when it comes to answering questions. So I apologize for that, and I apologize also for my French accent. So obviously, the first thing that comes to mind when we think about the current situation in France and elsewhere is the COVID-19 crisis and how it changed a lot of things in our daily lives. But as Marxists, we know that both the origins and the huge effects on people all over the world are linked to specifically to capitalism. And I won't talk about that because you already discussed it in other sessions, like the one with Rob Wallace, for instance. But this virus appeared as one of the consequences of capitalist productivism and spread through the circuits of capital as we know. So capitalism is also responsible for the huge and deadly effects of the virus because neoliberalism has made many countries, even the richest countries, incapable of dealing with this kind of pandemic. Even in a country like France, where the social security system and the public health system have not been destroyed as they have been in other countries, and it's quite obvious that the effects of this incapacity are extremely unequal. Since last spring, we have statistics in France, for instance, like in other countries, that show that the mortality rate is way higher among the working classes and the minorities. We also know that bourgeois powers in most countries, and France is a perfect example for that, used the health crisis to move to a more authoritarian form of political domination. And it's not a simple and mechanical effect of the virus itself. First, we could imagine quite easily very democratic and more efficient ways to fight such a virus, but most governments reacted in a very repressive and paternalistic way. So in France, for instance, the government began to lie about the pandemic. The health minister saying in the end of January 2020 that the virus had no chance to come to France. Then they lied about the mask, saying explicitly that it was completely useless because they didn't have any mask and they didn't want to share the responsibility for that. Then they also lied about the test, saying that it was also useless to test massively the population. And they lied so much because they were totally unprepared to face such a crisis, and because in the beginning they wanted to make sure that the capitalist economy was not going to be stopped or slowed down in any way. Even in the 7th of March 2020, Macron went to the theater with his wife to encourage people to go out, saying that there was no danger at all. And the lockdown came only 10 days after that. One last example, which is more linked to the more directly linked to the class struggle, is that in the 28th of February 2020 was published a crucial report of the World Health Organization saying that the huge mobilization of populations and governments was necessary to fight the spread of the virus. And the day after that, it was a Saturday, and the government was supposed to hold an exceptional Council of Ministers about the COVID-19, and the Prime Minister consciously decided to distort that special council and to use it to announce a specific procedure to impose the pension reform, without any vote of the parliament. After 3 months of mobilizations in the streets that Anna spoke about, while every poll was showing that a large majority of people in France was opposed to the reform project and was still supporting the movement. So this is how bourgeois powers are working. Profits always coming first, no matter the consequences on our lives. So if we want to go further about the situation in France, we need to examine carefully the balance of forces between fundamental classes. And the first thing that appears is that the balance hasn't changed in the last period. We still are in the same historical period, which doesn't mean nothing have changed. But I think what we've seen is the deepening of the political contradictions and the deepening of the three main features of the political situation in many Western countries, actually. But in France, these contradictions appear to be specifically intense, let's say. On the side of the capitalist class, there's a contradiction between the very high degree of domination of capital on workplaces and the destabilization of bourgeois political rule. And this contradiction is a direct effect of the capital offensive that we usually call neoliberalism. On one side, neoliberal policies led by bourgeois governments for the last 40 years made very difficult for workers to fight specifically on their workplaces, especially in the private sector, and especially through strikes, which still are the main and specific weapon workers do have to impose their interests. And on the other side, neoliberalism has broken the social compromise on which was founded the active popular consent to the political order. And then it had the effect to weaken deeply bourgeois parties in many countries, and especially in France, where market-driven policies are very much contested for a long time. No surprise then that this political weakening of the bourgeoisie reached a very high point in France in the last 10 years, as both dominant parties, right-wing and centre-left, which represented 60 to 70% of voters, fell to 25% in the last presidential election and then to 15% in the last European election. I think we can speak here of a crisis of hegemony, to use Gramsci's expression, or at least hegemonic instability, to speak like someone like Poulantzas, which means the bourgeois class exploit economically and still dominate politically, especially in the absence of any revolutionary alternative, but its capacity to win the active consent of a majority of people has declined dramatically, especially in France. And I would say that this hegemonic instability is a feature we find in many countries, but in Western European countries, France, hegemonic instability is particularly intense. So this is how we can understand the authoritarian turn that we have seen in France in the last 10 years, and which is actively discussed in France right now, even by people who are anything but revolutionaries, even a few right-wing intellectuals who worry about the suspension of civic liberties or the fact that the political power is being more and more concentrated and absorbed by the president of the republic. For instance, every important decision in France about the COVID-19 crisis is taken secretly, not even in the Council of Ministers, but by Macron in a defense council. And we don't know anything about what is discussed among them, which means that the parliament has become nothing but a theater, because absolutely no political decision is taken there. So it's no surprise for Marxists, because we know the capitalist class has a very instrumental view of its own political and constitutional system that they call democracy. But it's important to see that they are moving to a new form of political domination and a more authoritarian one. Obviously, the context of the COVID-19 crisis has deepened this authoritarian turn, but with the invention of the notion of health state of emergency. I don't know actually if it's only in France or other countries use this notion to impose some suspension of the basic liberties and rights but it began a few years before. For instance, when the social movement of 2016 against the Loi Travail that Anas talked about, which was a labor market reform, when it was violently repressed by a government led by the so-called Socialist Party, obviously in 2018 and 2019, when we saw the most violent repression of any social movement in France for the last 60 years, namely the Yellow Vest movement, 25 people lost an eye, due to flashbulb shots from the police. 5 people lost a hand because of grenades thrown by the police. 1,000 people have been jailed due to their participation to the movement. 1,200 people have been given a suspended sentence. And more than 12,000 people have been in police custody during the months of the mobilization due to their participation to the Yellow Vest movement. These are figures that are unprecedented in France for the last 60 years, and unprecedented ever, I would say, since the last century, except for the anti-colonial movement in France from Algerians. The second feature of the political situation in France is about the working class itself and the oppressed. As you know, France has not been at all a desert for social movement in the last years, and the class struggle reached a high point of intensity between Macron's election in 2017 and the COVID-19 crisis, especially in comparison with other Western countries like Britain, Germany, or Italy. The two main movements in intensity and durability have been the Yellow Vest movement, obviously, in 2018-2019, and the movement against the pension reform in 2019-2020. This movement has set in motion different fractions of the working class. The Yellow Vest movement has been mostly a movement of a fraction of the working class, which is not used to get involved in social struggles. That was the most interesting part or aspect of this movement. It was workers from small businesses or unemployed workers, usually living in small towns or semi-rural or rural areas. And it had very interesting aspects, especially the fact that it has taken very radical forms of confrontation with the state, because it was not like controlled by unions, bureaucracies, but also the fact that from very confused positions in the beginning, it went quite quickly to positions and claims around real democracy and more equality and all that. But the movement also had weaknesses, especially the lack of relations with the labor movement, which led to a relative lack of interest about the question of workplaces and exploitation, but also the fact that it remained a minority movement. The highest point was 500,000 people in the streets in a country where there have been many movements in the last 20 years, which succeeded in gathering millions of people in the streets. The movement against the pension reform has been mainly led by workers from the Paris subway and railway workers, like Anas, especially in December of 2019. But it has been joined also by electricity workers, refinery workers, some workers from the public sector, a small part of the students, etc. So let's say the most combative fraction of the working class. So something we are pretty used in France, especially there have been like a cycle of social movements from 1995 to 2010 in France, led by these fractions actually of the working class. It has been one of the biggest strikes in the railway sector in the Paris subway, and it led to big demonstrations with more than 1 million people involved. Unfortunately, it didn't lead to a victory, and as usual, it's not easy to understand exactly why, but we know the sectors where the movement has been weak or very weak, and we have to tackle this issue to win the next time. So first, the private sector, which has almost been missing in the movement, which is linked not primarily, I would say, to a treason from unions' leadership, but to the fact that in many workplaces, there's no union at all, and that precariousness has risen dramatically. So this is one of the main challenges for the labor movement in general and for revolutionary activists in particular, in France and elsewhere. How do we face this situation in the core of the exploited class? Well, second, the movement has been relatively weak among public sector workers, which seems pretty surprising given the fact that unions are stronger there and that these workers have been very combative, as I said, in the previous cycle of social movements in France, let's say until 2010. Third, the movement has been weak among young people, especially young workers, which can be explained by the huge precariousness they suffer and huge unemployment too, but also students, which had also been a driving force in the previous cycle of class struggle in France. But it's a fact that for more than 10 years now, we haven't seen a real mass movement in universities in France, as we experienced 3 or 4 between 2003 and 2009, including movements that won against governments.
especially in 2006 against a new contract they wanted to impose, a precarious contract, especially for young people. And they had to, because the movement was so strong, they had to take it back. So these two movements have been the most massive and radical class struggles in the last years in France. But the interesting thing is that other movements setting in motion other fractions of the working class have been growing too. I think especially about the movement against police brutality, which had always been very small before, but which grew thanks to the militancy of a new generation of non-white activists, especially women. Leading especially to a demonstration of 100,000 people, 100 maybe a bit more last summer, in the context of a global protest against police brutality. But I also have in mind, which is I think even more significant in the context of France, the movement against Islamophobia, which succeeded for the first time to organize a mass demonstration 3 years ago in 2018. And it is incredibly important because you have to know that France is probably one of the Western countries, maybe the Western country where the Islamophobic offensive from the ruling class is at the highest point. To give you an example, the main organization of the, for the defense of Muslims in France, the CCIF, Collectif contre l'Islamophobie en France, which had almost like 15,000 members, has been disbanded a few months ago. And it happened without any organized opposition in the streets, but with the applause of the huge majority of pundits and political leaders from center-left to the fascist. There has been like assessments from organizations, even which is quite surprising, actually. Even the main union in France, like the CGT, said something and had a conference with the CCIF to oppose the disband. But no, there was no like collective and street mobilization against that. I mean, it's the most massive anti-racist. It was the most massive anti-racist organization in France. So the thing in France is that there are mass social struggles, but there are at least I would say three big problems that I would like to emphasize. These struggles are strong enough to bother a French capitalist class which is politically weakened, which leads this class to turn to more authoritarian methods. But these struggles are not strong enough at this point to win even defensive battles against pro-capitalist reforms, and even more so to crystallize through a political revolutionary alternative. So we shouldn't tell history to ourselves about that. For the moment, it's not the time. So second, the other difficulty in the situation is that we still have difficulties to build alliances between social movements, even if there has been undeniably some progress at this level. For instance, the leader of the main French union has participated to demonstrations against police brutality and also against Islamophobia, which would have been impossible, completely impossible 10 years ago. So there are a few signs that show that there are some progress, but there's a kind of how would you say, like course de vitesse. there's a competition between the progress of the far right, the fascist, and the Islamophobia, racism, state racism, and the progress of anti-racism, which is too slow in France. And third, another problem that we face is that we have seen effectively the emergence of a new radical activist generation, but which has problems to build organic relations to the masses. And a good instance of that is universities, where there is a layer, undeniably, a layer of revolutionary activists, larger, I would say, than 15 years ago from my experience, but which hasn't been able to build mass movements in universities in the last 10 years, except in a few places, like the three or four more activist universities in France. But in the rest of the universities, they were very small movements in the last 10 years. So this is leading me to the last feature I wanted to talk about, but I will be very quick because I almost used my time, I think, which is the fascist threat. And all that I've been saying about the political crisis, about the hegemonic instability, but also about the class struggles and difficulties faced by these struggles and by the labor movement,
helps us to understand something which is central in the political situation right now in France, namely the huge and growing influence of fascists, electorally and ideologically. This influence is already an obstacle for working class struggles in France in the sense that it attacks the lives of the most exploited and oppressed sections of the working class, and in the sense that it deepens the racial divisions inside the working class. And we have to see that we are entering a period that was that's what I was defending in my book, that we are entering a period when fascism appears and will appear as a concrete possible alternative for the capitalist class if the political crisis is still deepening even more and if the working class is unable to build a political alternative for its own interests. So the main organization that embodies this fascist threat in France is the National Front, that changed its name 2 years ago, but it's still the same party founded on a fascist project. We know the National Front doesn't have a massive apparatus of violence, of coercion, but it has a huge electoral support. 10 million people voted for Marine Le Pen in 2017, and she was... she won a majority of votes in the industrial working class, which should be of some interest for us, for revolutionary activists. And polls right now show that they could win. She could win the next presidential election and then have access to state power, because she on the eventuality of a second turn between Macron and Le Pen, she would get, well, it's a poll, huh? So no, but she would get like 48. And the last time she did, like 34. Her father in 2002 got 18 at the second term. So you see the progression, the progress of the far right electorally. And if she had access to the state power, obviously it would mean more violence against minorities, more authoritarianism, and more repression against social movements and the left, all the left, not only the revolutionary left, but any contest of the dominations at any point. And I'll finish on that. If we take this seriously as revolutionary activists, we need to build a united front of the exploited and the oppressed, a block of subalterns, would say Gramsci, which allows to build organic links between social movements and especially the labor movement and the growing anti-racist movement in France, and which could allow to come from a defensive struggle against the fascists, against state racism, against state authoritarianism, to an offensive struggle for socialism. Thanks.